Nous allons donc reprendre nos travaux pour l'après-midi et je suis heureuse de passer la parole à Michel de Fornel, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, dont l'intervention s'intitule « Champ déictique et champ symbolique ».
Merci Sylvie. Là c'est bon, vous m'entendez ? Donc je voudrais aujourd'hui m'intéresser à deux concepts clés de la théorie du langage de Buller, qu'on a déjà évoqué évidemment ce matin, les concepts de champ déictique et de champ symbolique. Et au fond, je voudrais me demander si ces concepts ont encore une actualité, au sens où ce sont la théorie, je dirais, bullérienne, en particulier sa théorie de la DX6, ont été, on peut considérer, globalement intégrés dans le champ des recherches linguistiques, au sens où, globalement parlant, Buller est une référence incontournable, en général en début d'article, des travaux qui présentent telle ou telle analyse de phénomènes déictiques. Donc, on peut considérer que la théorie de la DX6, ou dans ses nombreuses variantes, se réclame généralement de Buller et que, d'une certaine façon, au fond, il n'y a peut-être plus grand-chose à en reprendre ou à en développer. Et ce que je voudrais faire dans cette communication, c'est indiquer, à mon sens, deux pistes possibles d'une actualité d'une actualité de la théorie du langage de Buller concernant le champ déictique et le champ symbolique. Il y a d'autres pistes, évidemment, mais ces deux pistes qui m'ont semblé importantes, ou en tout cas je suis convaincu qu'il y a quelque chose à chercher de ce côté-là. Très très brièvement, parce que ça n'a pas d'intérêt, il n'est pas très intéressant de faire un panorama, la théorie de la DX6, je dirais exophorique, de Buller est largement admise, en particulier sa théorie du lien entre de la localisation par rapport à l'origo. C'est en général tout à fait accepté, et beaucoup de travaux ces dernières années, je pense qu'on en parlera, Jérôme nous en parlera plus tard, les travaux qui portent sur la DX6 à l'imaginaire constitue aussi un champ très très vivant, en particulier en linguistique cognitive, dans les travaux sur l'intégration conceptuelle et dans d'autres travaux dans le champ cognitif. Donc on peut considérer que la grande postérité de Buller est plutôt du côté de la DX6 à l'imaginaire, et au fond son travail, sa thèse principale qui est dans les deux chapitres sur la DX6 ont été admises. Ces thèses ont été admises, elles sont reprises et on a surtout de nouveaux développements. Est-ce tout à fait le cas? Et c'est ce que je voudrais maintenant interroger. Au fond, ce que l'on a eu essentiellement, donc, c'est un travail de reformulation dans une perspective qui vise à intégrer Buller, mais qui vise aussi à intégrer la théorie de la DX6 dans une théorie sémantique plus large, et au fond, qui est une reformulation en termes de figure fond. Si vous prenez, alors, ma référence principale, mais je n'entrerai pas dans le détail, mais enfin, vous avez en particulier les nombreux travaux de Levinson et de ses collègues au Max Planck, qui l'ont tout à fait développé, les travaux de Hanks et d'autres, au fond, reprennent la théorie du Buller dans les termes d'une opposition entre figure fond. Donc on peut considérer que, au fond, la notion de champ déictique est reformulée en termes de fond, ce qui a un avantage, évidemment, c'est que cela permet un parallèle avec les usages des nominatifs dans le champ symbolique, puisqu'on peut, au fond, comparer une description comme « le crayon est sur la table » et dans lequel on a, au moyen d'un prédicat locatif, une information spatiale relationnelle. Et puis, le crayon est ici, dans lequel, là, le fond n'est plus le prédicat locatif, mais le locuteur, l'origo du locuteur. Cette transformation technique, en un sens, est conforme à l'inspiration gestaltiste de Buhler. Et on peut considérer qu'effectivement, elle ne fait que reprendre l'idée qu'on doit inclure l'origo dans la région du fond qui constitue, dans la région qui constitue le fond par rapport auquel une figure perçue se détache. Donc il y a une pertinence au fond, développer une idée, une conception du, non plus du champ déictique, mais plutôt du champ déictique conçu comme une opposition fond-figure. Le défaut de cette approche, me semble-t-il, c'est que le résultat pratique, en fait, c'est que l'étude du champ déictique a tendu ces dernières années à se réduire à l'étude de la relation entre la figure et le centre déictique. On va considérer, de ce point de vue-là, que les formes déictiques encodent une variété d'informations sémantiques qui spécifient la localisation relativement à l'origo. Et je parle là des termes démonstratifs ou des termes de position, comme dit Buhler. Si on prend un modèle, le modèle globalement accepté, par exemple celui de Hanks, on va se retrouver, au fond, à avoir trois types d'informations encodées. Une information qui porte sur la figure, qui décrit le référent en termes de traits, de type humain, animé, ponctuel, étendu, par exemple, comme en malgache. Statif kinésique, comme dans certaines langues amérindiennes. Donc, on aura un encodage en termes de figure. On aura ensuite un encodage, le terme déictique va encoder une information de type origo, de type indexical, qui nous indiquera si le terme est à référer au locuteur, à l'auditeur ou à l'auditeur et au locuteur et à l'auditeur, et l'on passera de ce point de vue-là d'une approche plutôt égocentrée à une perspective plutôt sociocentrée, sociocentrique ou allocentrée. Troisième type d'information, on encodé. Ce sera la relation entre la figure et l'origo, qu'on appelle souvent relationnelle, qui va expliciter la relation du référent à l'origo. Les traits caractéristiques, ce sera le trait immédiat, non immédiat, visible, ou même l'opposition inclusif-exclusif, que l'on retrouve aussi dans de nombreuses langues concernant les démonstratifs. Le résultat donc de cette approche, c'est que les traits caractérisants les indexicaux et l'approche donc plus globalement se focalisent sur une analyse de la relation entre la figure et l'origo. Les traits relationnels vont spécifier la relation entre l'origo, qui va être l'un des participants ou les deux participants de l'événement de parole, et la figure. Dans cette perspective, l'origo est au fond devient, je cite Levinson, le fond qui permet de définir la figure. Et au fond, le centrage reste sur l'origo, qui est au fond l'élément principal du champ, évidemment, à part la figure. Cette approche est-elle fidèle à Buhler? Je ne crois pas. Et je crois que là, du coup, on a peut-être une piste importante. Évidemment, Buhler a accordé une place aux propriétés du fond qui caractérise le champ déictique, mais ce qu'il a voulu, c'est intégrer l'ensemble des éléments pertinents du contexte et pas seulement l'origo. Autrement dit, le champ déictique, pour lui, inclut le fond et la relation figure-origo. Autrement dit, ce qu'il faut, je pense, postuler, c'est que l'origo ne fait pas partie du fond. l'origo ne peut constituer le fond, l'origo, donc le locuteur et l'auditeur, ne peuvent être considérés comme des éléments du fond permettant à une figure de se détacher. Ce sont, à mon avis, bien plus, et Buller le dit explicitement, les auxiliaires sensibles qui assurent cette fonction. Je pense que l'on a, si l'on suit cette perspective, on s'explique la citation suivante, page 216, pour ceux qui ont le livre, de Buller. En l'absence de tel fil directeur, chaque signe déictique verrait son sens jeté au hasard sans détermination. Il ne nous indiquerait rien d'autre qu'une sphère, un entre guillemets point géométrique, insuffisant pour découvrir quelque chose qui s'y trouve. Conclusion, je pense que par rapport aux travaux sur la DX6 qui sont développés ces dernières années, le projet d'étude du champ déictique ne peut se réduire à l'étude des relations entre la figure et l'origo. Il faut, à mon avis, reprendre, évidemment sans doute sur une base nouvelle, mais quand même dans le prolongement, le travail de Buller sur les auxiliaires sensibles. Quel est l'argument qui me semble être en faveur de la thèse que je veux défendre aujourd'hui? Je crois qu'il faut examiner de près le premier chapitre portant sur le champ déictique. Qu'est-ce que l'on voit à ce moment-là? C'est que Buller, reprenant les travaux de Brockmann, s'est centré sur l'analyse de la DR DX6 et non pas, comme on aurait pu l'attendre, sur l'analyse de la DX6 ish ou do, comme il dit, c'est-à-dire sur l'analyse de la DX6 qui met en œuvre une articulation entre les positions et l'origo. Pourquoi a-t-il fait ça? Je pense que, et c'est, en un sens on peut trouver évidemment cela curieux, il reprend Brockmann. Brockmann, effectivement, pour ceux qui ont lu le livre de Brockmann, place au début de son analyse et accorde un rôle central à la DER DX6, où s'appuie en particulier sur les formes issues de l'indo-européen, puis les formes en taux que l'on retrouve en grec. Et si l'on examine au fond quelle est cette DX6, cette DER DX6 ou cette DX6 en taux, au fond, ce que l'on voit, c'est qu'il s'agit au fond d'un démonstratif relativement faible, un relatif qui dans d'autres langues va être associé à une forme présentative, un démonstratif qui a pour but d'appeler à notre attention, de rappeler à notre attention un objet connu ou d'annoncer un objet nouveau, bref, un déictique qui ne s'inscrit pas dans une opposition proxémique distale en rapport avec la DX6 personnelle. Je pense que là, on a tout à fait l'indice que Buller a voulu, en privilégiant et en mettant au cœur de son analyse cette DX6, s'intéresser avant tout aux auxiliaires sensibles qui sont associés à une DX6 qui, en elle, porte au fond peu d'informations du point de vue de l'encodage sémantique. Autrement dit, une DX6 qui ne s'intéresse pas ou ne porte pas essentiellement sur la relation, les différents types de relations que j'ai déjà caractérisées, de la figure à l'origo. Je pense qu'il faut prendre au sérieux cette démarche de Buller, le caractère privilégié qu'il a accordé à la DER DX6, et je pense qu'il est important de le suivre de le suivre dans sa démarche, en particulier dans l'analyse que cela lui conduit à faire et que vous avez sans doute évidemment vous avez lu, qui fait que pour lui la DX6 qui pour nous va être une DX6 centrale, qui est la DX6 istée, celle qui est en rapport non seulement à l'origo mais aussi à l'interlocuteur, occupe pour lui une place tout à fait marginale. Pourquoi occupe-t-elle une place marginale? Parce que pour lui, il n'y a pas d'auxiliaire sensible que l'on peut aisément mobiliser pour parvenir au remplissement de sens, remplissement de signification qui évite l'indétermination de la signification. Si donc Buhler a choisi de privilégier la DX6, c'est qu'elle lui permet de montrer que ce qui est central dans le champ déictique, c'est bien les auxiliaires sensibles ou, comme il le dira, d'autres phénomènes équivalents en termes de schème aux auxiliaires sensibles. D'où le fait qu'il privilégiera en particulier, associé à la DX6, le geste de pointage ou, puisqu'il y accorde quand même une certaine place, évidemment, à la DX6-ish, à la qualité de la provenance de voix qui oriente vers le locuteur. Je conclus donc que, mais bien sûr je pourrais revenir sur ce point s'il y a des questions, que le fait que pour Buhler, il y a un caractère problématique, nécessairement problématique, de la DX6-istée, et aussi, j'en ai pas parlé, mais je pourrais évidemment aussi en parler, de la DX6 qu'il appelle DX6 Yeder, la DX6 là-bas, qui est problématique pour lui parce qu'elle suppose déjà une distinction proche-lointain par rapport à l'origo. Ces éléments, je crois qu'il suffit de suivre de près son analyse, tous ces éléments montrent que pour lui, ce qui reste central, ce n'est pas, comme dans la plupart des travaux actuels sur la DX6, la relation entre la figure et l'origo, mais c'est bien ce qui, dans le fond, en termes d'auxiliaire sensible, permet de surmonter l'indétermination de sens ou de permettre, alors pour le dire positivement, le remplissement de sens. Je pense que de ce point de vue-là, si à suivre Buhler, on peut penser qu'on peut suivre Buhler, aller plus loin et maintenir une notion de champ déictique riche face à la tentative d'appauvrir très fortement la notion au point de la vidée de sens. Il n'y a pas vraiment besoin de notion de champ déictique tel que l'on on trouve actuellement dans les travaux sur la DX6 actuelle. Alors, je n'ai pas le temps d'en parler maintenant, mais évidemment, il serait sans doute malgré tout nécessaire de modifier sur un point sa théorie, je pense, la façon dont il n'articule pas, à mon avis, suffisamment correctement, le lien entre la DX6 de position et la DX6 de rôle. C'est-à-dire que, donc je ne vais pas le développer parce que ce n'est pas central pour moi, puisqu'il s'agit pour moi de défendre l'idée d'une spécificité de la notion de champ DX6 et qu'on ne peut pas réduire à l'opposition figure-fond. Mais par ailleurs, je veux quand même indiquer que sur la question figure-fond, il serait nécessaire de reprendre le dossier. Et en particulier, je pense, de ne pas suivre Buhler, qui tend quand même à avoir, à ne pas articuler correctement le rapport entre DX6 de position et DX6 personnel. Je pense que, pour le dire de façon, j'imagine, je crois trop brève, mais enfin, qu'il ne voit pas la place centrale de la DX6 personnelle. En particulier, il ne prend pas en compte le fait qu'elle peut être considérée, si l'on suit Kourilovitch et d'autres, comme la couche déictique primaire. Et donc, je pense que, de ce point de vue-là, un développement tout à fait important serait à faire pour une meilleure articulation entre DXIS personnel et DXIS de position, DXIS de rôle, DXIS de position. Il faut, à mon avis, simplement, je ne veux pas excuser Buller, mais considérer que stratégiquement, il avait intérêt peut-être à ne pas se centrer sur cette articulation pour pouvoir indiquer le caractère central des auxiliaires sensibles. Donc, premier point que je voulais soumettre à la discussion. Le second point porte sur le champ symbolique. Et je n'aurai pas le temps, je pense, de traiter le rapport entre champ déictique et champ symbolique. Le champ symbolique, je dirais que n'a pas, alors je vais le dire de deux façons, je dirais que la notion de champ symbolique n'a pas au fond été repris, à mon sens, de façon technique dans les travaux linguistiques. Par contre, je pense que son idée très simple, qui est au fond l'idée d'une autonomie de la syntaxe par rapport à la morphologie, l'idée au fond très simple que l'on ne peut pas, on n'a pas seulement une valeur de symbole, mais une valeur donnée par le champ symbolique associé au symbole, au fond, on peut considérer que cette idée est passée. Il suffit évidemment de considérer le développement formidable après Buller, et en particulier à partir des années 50, du domaine de la syntaxe par rapport à la morphologie, qui, bien sûr, elle aussi s'est développée, mais je dirais que c'est vraiment le développement de la syntaxe. On peut donc, là encore, si on se place à partir d'aujourd'hui, il peut sembler qu'au fond la notion de champ symbolique, au fond, n'est pas, enfin, ne peut pas être repris de façon particulièrement pertinente. Il me semble pourtant qu'une piste est possible, et c'est celle que je vais suivre aujourd'hui. Cette piste va passer par l'examen d'un dossier précis, qui est l'examen que propose Buller lui-même, qui est l'examen du système casuel, du système des cas. Que nous a proposé Buller ? Buller nous a proposé, on en a parlé ce matin, qu'il existe à côté des symboles, et dans ces termes, à côté des classes de mots, pour utiliser le vocabulaire de l'époque, à côté globalement de la morphologie, il existe des médiateurs syntaxiques, des organisateurs, une citation page 315, ces médiateurs ont une fonction d'organisation, d'instrument de mise en ordre, de coordination. Ce sont des médiateurs parce qu'ils sont insérés entre les mots et les choses. Ce sont des organisateurs car ce qu'ils font est comparable à des instruments matériels d'organisation comme les classeurs de lettres, les catalogues. Et page 317, il y a dans l'instrument verbal de représentation le besoin d'une mise en ordre. Si l'on se situe dans le contexte de l'époque, au fond, il est clair que, et Buller l'a bien indiqué dans un chapitre antérieur, qu'il a pris le parti de Ries. C'est-à-dire, il considère que l'on ne peut pas seulement étudier la phrase par l'extérieur, mais qu'il faut aussi l'utiliser par l'intérieur. En gros, il a pris le parti de Rees et, au fond, il s'inscrit déjà dans une perspective syntaxique moderne. Il considère qu'il y a, à côté des symboles, un champ constitué, comme il le dit, de ces médiateurs, ou ce qu'il appelle aussi des instruments de champ. Voilà donc ce que, dans un chapitre antérieur, Buller nous présente. Et il décide de l'illustrer par un dossier très précis. Ce dossier, c'est le dossier du système casuel de l'indo-européen. Et je pense qu'il est important de regarder de près ce chapitre. Je cite Buller, au fond, dit un seul exemple, c'est-à-dire il va avant tout se centrer sur cet exemple-là, et il dit un seul exemple bien étudié, qu'il étudie de façon détaillée, du caractère médian de ces instruments va nous occuper en détail, celui du système casuel des langues indo-européennes. L'outil de champ constitué des formes casuelles et inséré entre mots et choses ne devient un organisateur utilisable que par le fait que ce qu'il s'agit de représenter, à savoir les états de choses qui sont reproduits dans l'œuvre langagière des phrases, est pensé et vu à travers un schéma d'action, humaine ou animale. Et il le conclut, il s'agit du schéma d'état de choses dominant des langues indo-européennes. Voilà la thèse qui est donné très vite, avant même que, en introduction, en fait, à ce chapitre. Et l'argument consiste à introduire cette idée de médiateur, cette idée d'organisateur, et de considérer qu'au moyen de ces médiateurs ou de ces organisateurs, on peut bâtir une syntaxe général, et comme il le dit, en suivant la voie par l'intérieur, non seulement en partie, mais en totalité. Il y a donc là, au travers d'un dossier précis, qui est le système casuel, une tentative très, très ambitieuse de fondation du champ symbolique. Il le fait sur un dossier précis, qui est le système casuel. De quelle façon s'y prend-il ? Sa critique principale, sa formulation part d'un point de vue critique. Le point de vue de Wundt, il consiste à essayer, à partir, de l'opposition entre détermination interne et détermination externe. Au fond, il est assez proche de Jenslev, qui à la même époque aussi écrit un ouvrage, la théorie du cas. Et si l'on veut se situer dans le débat de l'époque, au fond, entre les localistes, par rapport à une théorie du cas, entre les localistes et les antilocalistes, il se situe plutôt du côté des localistes, mais il essaye d'avoir un point de vue localiste élargi, de façon à intégrer les cas grammaticaux. On peut considérer que c'est, au fond, la stratégie qu'il va suivre, montrer que la notion de détermination interne est insuffisante, qu'on ne peut pas suivre Wundt de ce point de vue-là, mais considérer quand même qu'il y a bien un ensemble de cas de détermination interne au sens alors descriptif, c'est-à-dire un ensemble de cas noyaux, et essayer de leur donner une valeur sémantique. Sans rentrer dans le détail, ce que fait Buller et sa stratégie va consister en deux choses. Un, reconnaître le caractère central de ce qu'on appellera plus tard les valeurs argumentales liées au verbe, ce qu'on appellera aussi la valence, mais que lui ne développe pas, ou qu'il développe en termes, en utilisant le vocabulaire de la connotation. Ça, c'est sa première stratégie. Sa seconde stratégie va être d'associer à ces places vides liées au verbe, deux rôles liés au schème d'action associé au verbe, autrement dit, ce que l'on appellerait plutôt dans le vocabulaire d'aujourd'hui des rôles sémantiques. Si l'on examine sa stratégie, au fond, elle est déjà, et je crois qu'il est curieux qu'on ne l'ait pas vu, au fond, on est très proche de ce qui est développé beaucoup plus tard, en particulier dans les travaux de Doty, mais aussi dans Rule and Reference Grammar, l'idée que l'on doit apparier des places argumentales et des relations sémantiques. Et si l'on regarde de près, on voit même que Buhler est conscient des problèmes que pose un tel appariement. Et en particulier, il montre bien que la position sujet, dans la position sujet, peut se retrouver non pas un agent, mais ce qu'on appelle aujourd'hui un expériencieur. Autrement dit, que la position sujet est une position composite et que l'on ne peut pas faire un appariement simple, général, associant une position sujet et une position agent. Il fait de la même chose, de façon beaucoup plus intéressante encore. Il a des développements très intéressants sur la position liée au cas accusatif, donc la position objet, dans lequel il développe plutôt une analyse en termes d'objet affecté. Il y a chez lui l'idée que la mise en correspondance des places argumentales et des rôles sémantiques ne va pas de soi, et de ce point de vue-là, on peut considérer qu'il anticipe la tentative, à mon avis pas très couronnée de succès, mais enfin la tentative consistant à ne plus parler d'agent ou de patient, mais de proto-agent ou de proto-patient dans les travaux de Doty ou d'autres qui l'ont repris. Il y a toute une littérature à ce sujet. Mais je crois que si l'on s'en tenait à ce que je viens de présenter, au fond, on verrait, là encore, que chez Buhler, au fond, quelqu'un qui précède, quelqu'un qui a vu plutôt que les autres, et qu'il est dommage, évidemment, qu'il ne soit pas crédité à sa juste mesure, sans doute aussi parce que les traductions ont été tardives, en anglais aussi, et évidemment, en français. Mais je crois qu'il y a chez Buhler une autre idée qui me paraît, elle, tout à fait nouvelle, en tout cas peu pris en compte à l'heure actuelle. Et cette idée apparaît dans un passage très intéressant du chapitre, une partie tout à fait amusante d'ailleurs, qui porte sur l'exemple de la mort du lion. Et je ne pense pas qu'on puisse suivre techniquement parlant, il y a des erreurs, on ne peut pas suivre Buhler dans son analyse. Mais Buhler fait quelque chose de très intéressant et de très novateur pour l'époque, c'est qu'il introduit une sorte de variation typologique. C'est-à-dire, au fond, il ne réfère pas à une langue précise, mais on voit bien qu'il pense plutôt à des langues qu'il ne distingue pas très bien, mais en gros des langues ergatives et des langues agent-patient, et même, peut-être, parce qu'il part de l'idée de direction, des langues algonquines, c'est-à-dire des langues qui ont un système direct inverse. Il va chercher d'autres langues, autrement dit, là, il introduit la variation typologique pour montrer qu'il existe d'autres possibilités de codage grammatical de la relation entre les événements et les participants. Et je ne vais pas le développer, mais de ce point de vue-là, il est, à mon avis, il est là quelqu'un qui est vraiment très, très en avance sur son temps, parce que c'est seulement dans la période récente que l'on a changé un peu l'axe ou la perspective, en ne considérant pas nécessairement que le sujet, évidemment l'objet, est un universel grammatical. Autrement dit, l'idée qu'il faut nécessairement associer des places argumentales et des rôles sémantiques cette idée-là qui conduit, qui a comme idée d'arrière-plan l'idée qu'il y a nécessairement, qu'il faut nécessairement postuler le sujet comme universel grammatical, on peut considérer, et je n'ai pas le temps de le développer, mais qu'il y a beaucoup de remarques importantes de Buhler qui montrent que lui a vu, en tout cas, qu'il était possible d'engager une autre perspective. Et je pense en particulier à tout le développement sur l'impersonnel. Conclusion de cette deuxième partie, trop sommaire, j'en ai bien conscience dans la démonstration que je ne peux pas faire sur le plan technique. La notion de champ symbolique, à mon avis, doit être conservée. Elle peut être développée aussi dans le sens suivant, dans le sens de la variation. C'est-à-dire, il y a chez Buhler l'idée qu'il y a une variation du champ symbolique entre les langues, au sein même d'une langue. Cette variation, pour lui, est la variation dans le codage grammatical des relations entre participants et participants, référents et événements. Il y a une différence profonde entre les champs symboliques dans les types de langues, je pense au système agent-patient, au système direct-inverse, absolutif-ergatif, ou évidemment langue accusative. Et Buhler insiste bien aussi sur le fait que il s'agit de types, mais qu'on peut s'attendre à trouver aussi des constructions moins présentes, mais quand même qui au sein d'une même langue ou d'une même famille de langues. Je voudrais conclure sur une remarque de Buhler. Buhler dit, page 453, il y a une indication sur la façon dont il faudrait répondre à la question de la classe des mots. Donc ça, c'est la question par l'intérieur ou par l'extérieur. Dans le fait qu'elle ne devient brûlante que dans les langues exotiques, lorsqu'on tombe sur des champs symboliques dont l'étrangeté nous surprend. Je pense qu'il faut rester sur cette idée d'étrangeté. Je crois qu'effectivement, il y a un programme possible concernant le concept de champ symbolique si on le travaille à partir d'une approche typologique des langues. Et pour peut-être ne pas isoler Buhler dans cette tentative, je pense qu'il suffit de penser que Buhler s'inscrit dans une filiation qui est la filiation de Humboldt. Cette filiation, elle est très présente dans la théorie du langage. Dans ce chapitre sur le système casuel, Buhler nous indique explicitement que pour lui, ce qu'il va présenter, le schème d'action ou le cliché d'action, comme il l'appelle, qui est donc le type de rôle sémantique associé au verbe transitif, il l'appelle une forme linguistique interne en référence à Humboldt. Et il est, je pense, bien connu que Humboldt a, au fond, développé cette idée d'une forme linguistique interne dans le cadre d'un programme d'analyse de type sémantique grammatical des types de langue. De ce point de vue-là, il y a pour moi un successeur à Buhler, c'est Sapir. Je pense que le programme sapirien se situe dans le prolongement direct de cette approche du champ ou de la variation des champs symboliques de Buhler. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Je sais pas qui... Oui, ça va.
Merci.